Bon, donc mes invités sont en forme, c'est bien parce que voilà, moi je n'ai aucun humour le matin. Et donc, ça va être un petit peu plus difficile, mais eux sont déchaînés. Un petit peu quand même. Assez en forme. Pour cette première table ronde de la matinée, consacrée à humour et imaginaire, amuser, faire sourire, donc à des œuvres comiques, parodiques, en tout cas drôles, toujours. Et c'est ce qui réunit donc autour de ces tables ce matin Jeanne Adéba. Je vais commencer dans l'ordre du PowerPoint.
PowerPoint, c'est le
mal. Voilà.
C'est Jeanne
Debats. Debats, d'accord. Oui, non, mais avec plaisir, ça m'aide de savoir et je pense que ça aidera aussi. Voilà, Debats. Qui donc est ici moins pour son œuvre de science-fiction nettement plus sérieuse et réflexive, et quoi que ça le soit aussi, mais pour ses nouvelles et romans vampiriques autour du personnage de Navarre, et en particulier donc le dernier volume qui s'écarte un petit peu de ce seul personnage pour mettre une nouvelle héroïne au centre. Et donc c'est ce volume que vous avez devant vous qui s'appelle L'Héritière, qui est paru chez Actu SF. Jean-Claude Duniac, en fait c'est juste l'ordre alphabétique, hein, c'est pratique, avec L'Instinct du Troll, hein, que nous avions retenu, hein, dans notre sélection pour le prix Imaginal, est-ce un roman, est-ce un fix-up autour donc d'un savoureux personnage de troll de la fantasy parodique, fantasy humoristique. Non, déjà tu dois m'interrompre.
Alors je tiens à dire que c'est pas du tout humain de m'obliger à penser à être drôle à cette heure-ci, donc j'ai décidé de déléguer la table ronde à mon troll. C'est donc à lui que vous allez avoir affaire.
Et ça fait peur. Je sais pas si vous l'avez lu, mais il est quand même assez effrayant et massif. Ce D'accord. Ouais. J'ai peur.
Schlagbuck.
Normalement, c'est ce qu'il faut dire à cette heure-là.
Donc le second troll de cette table ronde, c'est John Lang, Pen of Chaos, le créateur et auteur du donjon de Nahalbuck. Donc voilà, bien connu sous ses diverses formes de feuilleton MP3, de BD, de romans. Et donc là, il y a deux romans qui sont parus ces deux dernières années, À l'aventure compagnon et Le Chaos en marche, toujours aux éditions Octobre.
Non, c'est Chaos sous la montagne.
Chaos sous la montagne.
Mais on marche sous la montagne, donc ça va.
Mais en fait, je le dis depuis tout à l'heure et tu m'as rien dit.
Non, parce que je suis pas réveillé.
En direct. Non, c'est... je suis sûr.
Mais en même temps, c'est sur l'humour, alors je trouvais ça drôle que tu te trompes.
Bah, voilà, d'accord. Donc le chaos. Mais non, Le Chaos en marche, c'est de Patrick Ness. Hein. Et alors, c'est très, très horrible. Bon, c'est une très. Un très
à nous aussi, c'est horrible. Hein. Il y a des nains qui meurent et tout. C'est...
Et enfin, Sylvie Miller avec les aventures, donc sans Philip Ward, mais avec les aventures de la sœur, le détective des dieux, donc en Égypte dans les années 30. Alors, quels sont les... Jean-Claude.
Je sens que je ne vais pas t'aider.
C'est ça. Je le sens aussi et c'est vraiment pas gentil. Je m'en rappellerai par la suite. Donc je suis très contente qu'on ait une table ronde autour de l'humour dans la fantasy, dans l'imaginaire plus généralement, parce que on sait que c'est une partie très importante du genre. Enfin, moi je trouve que c'est une partie vraiment fondamentale du genre, alors qu'on n'en parle pas suffisamment. Enfin, on n'apprend tout simplement pas au sérieux, puisque c'est pas comme ça qu'elle entend être reçue et que Jean-Claude ne nous y aide pas. Mais on va voilà, quand même essayer d'en explorer un petit peu les ressorts et les codes. Est-ce que le terme de parodie vous convient à tous? Et alors, qu'est-ce que vous parodiez? Bon, sans entrer forcément, Jeanne Debats se doit s'y connaître en catégorie jeunétienne plus précise que ça. Mais donc, ça implique forcément de jouer sur des codes communs, familiers, et de les détourner, d'en faire quelque chose pour jouer avec et s'en amuser. Donc, quels sont vos codes et est-ce que ça vous correspond, cette idée de parodie ?
Je ne dirais pas que je fais de la parodie, moi. J'utilise l'humour parce que l'humour, pour moi, c'est une arme qui fait passer les choses, qui fait passer les messages. Dans l'héritière, effectivement, je joue avec les codes, mais le jeu, il n'y a rien de plus sérieux. Le jeu, c'est ce qui nous construit en tant qu'être vivant. Il paraît qu'il y a une théorie qui s'appelle la néothénie et qui dit à peu près que plus les petits... Tu m'interromperas, monsieur le troll, après. Je te vois. Qui dit à peu près que, en gros, plus une espèce permet le jeu à ses petits, plus elle a des chances de développer l'intelligence. Enfin, je le fais en super gros, c'est parce que c'est le matin. J'aurais dit quelque chose de beaucoup plus construit à une heure normale, mais là, non. Et pour moi, le jeu, c'est quelque chose de vraiment très, très sérieux. Il y a un roman de science-fiction... Non, mais c'est même pas de la science-fiction, je trouve, de Damasio, qui n'est qu'un jeu et qui a eu un succès phénoménal. Il n'est pas drôle du tout. Hein, je pense à la Horde du Contrevent, par exemple. Voilà. Donc, je ne fais pas de la parodie, en fait. Pour moi, je fais effectivement de l'humour, de l'ironie. Je suis particulièrement cynique, y compris avec les codes dans l'héritière. Mais je ne parodie rien. Voilà. C'est... Parce que l'héritière, c'est un pur roman de Bicklit. Il y a tout dedans.
Ouais, moi, du coup, je ne parodie pas vraiment non plus parce que je ne fais que du réalisme. En fait, voilà, moi, ce que j'écris, c'est ce qui se passe dans les parties de jeux de rôle et on ne fait pas exprès. Donc, c'est comme ça que mon truc est né, juste en se prenant compte que bah non, ça ne se déroulait pas du tout comme dans les livres, justement. Quand on essaye de faire quelque chose, qu'on joue des héros, il y a invariablement le type de l'escouade qui a une idée grotesque ou alors qui fait un jet de dés grotesque, etc. Et donc, j'écris de la même façon en fait, que ce qui se passe dans les jeux, qui, nous, pour le coup, ne sont pas sérieux du tout. Même si on essaye, parce que des fois, on se dit « Allez, aujourd'hui, on va jouer sérieux !» Et voilà. Et donc, on commence à mettre en place notre aventure. Et puis là, il y a le mec qui n'est plus dans l'équipe. Mais où il est ? Ah ben il est parti voler la caisse, voilà, ça commence comme ça. Donc voilà, moi je fais pas vraiment de parodie, mais j'ai juste étudié mes contemporains joueurs et je me sers un peu de ce qu'ils font.
Philippe et moi, on peut dire qu'on fait pas non plus vraiment de la parodie, même si ça peut y ressembler par certains côtés. L'idée de départ de la serre, ça a été, on avait envie de faire quelque chose ensemble dans lequel on mettrait tout ce qu'on aimait bien. Et on était tous les deux passionnés d'antiquité, notamment d'Égypte. On adorait aussi les polars à l'ancienne, avec ces figures de détectives un peu hard-boiled. En même temps, on a le sens de l'humour tous les deux, donc on aime bien faire des choses un peu incisives, un peu marrantes. Donc on a mis un peu tout ça dans la réflexion, on a secoué, et il est sorti la serre. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit côté parodique, puisque effectivement, au départ, on part des codes des aventures, des personnages de détectives des années 40-50, que l'on détourne assez vite d'ailleurs, puisqu'on s'aperçoit que ce détective-là finalement ne correspond pas à ses codes et qu'il se prend plutôt souvent les pieds dans le tapis. Donc en fait, le but n'était pas d'écrire une parodie, c'était plutôt vraiment de mettre un peu tout ce qu'on aimait, et puis c'est parti comme ça.
Le troll est peut-être le plus
bagogrin.
Je crois qu'il a mis son masque pour qu'on voit pas qu'il dort en fait.
Moi, je comprends rien.
Bon, déjà, il y a une première chose qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il commence à faire chaud, l'humour, ça colle. Bon. Ouais. Bon. Donc oui, moi, je fais, alors là, par contre, sérieusement, authentiquement et de manière tout à fait professionnelle, de la parodie. Et je fais de la parodie, pourquoi ? Parce que j'ai un univers que je connais bien, que j'adore, qui est l'univers corporate, qui est celui de tous les matins, je vais embaucher à mon univers corporate. Et je vois, comme toi, avec le milieu de jeu de rôle, j'observe mes contemporains et je vois suffisamment de moments où je me dis, bon Dieu, là, ça va juste pas être possible, pour me dire que si j'étais un troll, je ne ferais pas comme ça. Et donc, j'ai décidé d'être un troll et à partir de maintenant, c'est devenu beaucoup plus jouissif.
Et les codes de la fantasy, comment tu les as réintroduits dans cet univers corporate ? bon, valable aussi.
Il faut pas dire réintroduire avec un troll. C'est des combinaisons de mots qu'il faut pas, surtout le matin.
Ah si, je vais pas, je vais éviter d'éviter. Pour John Hamm aussi, vous choisissez vraiment des types de personnages de fantasy. Et, qu'est-ce que vous en faites? D'où vous les sortez? Comment vous les avez construits? Ils viennent d'où?
En fait, on n'introduit pas l'un dans l'autre, hein, si je peux me permettre cette métaphore. Non. Je ne développerai pas, rassurez-vous, parce que je ne me permettrai pas. Je dirais qu'on a tendance à les fusionner. J'aurais bien dit les accoupler, mais ça va nous ramener à autre chose. Donc, on force l'un dans l'autre. Ça va vraiment devenir scabreux si je continue comme ça. Enfin bref, on s'arrange pour qu'ils soient tous les deux en même temps, au même endroit. Alors qu'a priori, ils n'ont rien à faire ensemble. On s'arrange pour que l'univers du Seigneur des Anneaux rencontre l'univers de Dilbert, la bande dessinée. Et à partir de là, ben, on a quelque chose qui ne ressemble à rien, mais qui est totalement jouissif, parce que du coup, tout ce qu'on vit dans la vie quotidienne peut être totalement transformé par le regard justement de fantaisie qu'on porte. Et puis, on peut jouer avec plein de thèmes sérieux. On peut jouer avec la finance internationale, on peut jouer avec Excalibur, qui est un thème extrêmement sérieux. Et puis, bon, en faire quelque chose, je dirais, de totalement détourné. Où là, le terme d'introduction, justement, est particulièrement intéressant.
Ah oui, sur Excalibur, moi, j'ai été totalement choquée.
Ah voilà. Hein? Je pense qu'il y a plusieurs fatwas sur la tête de Jean-Claude, rien que pour Excalibur.
Et ce sont des fatwas bretons, ils vont m'éliminer à coup de crêpe.
Ou encore, donc la fatwa tolkienienne, hein, la réécriture, l'explication
de... Ça y est, on a le point de Tolkien.
De Mondoum, déjà, hein, voilà. Souviens-toi, on s'était tellement agité que la lave était remontée jusqu'au sommet des galeries de la montagne. En faisant quoi, à votre avis, s'était-il agité comme ça? Bon, je vous le passe. On nous l'a assez reproché d'ailleurs. Je crois qu'un groupe qui n'était pas invité avait réussi à échapper au service d'ordre et à franchir les piquets de sécurité avant de s'enfoncer dans les tunnels, là où la lave affleurait. Il y en avait même un qui était tombé dedans. On avait dû évacuer les survivants par voie aérienne pour éviter l'émeute. C'est excellent, non? Tout le monde a oublié cette histoire, tu sais. N'empêche, des têtes étaient tombées, y compris au plus haut niveau. John.
Oui. Alors, d'où on sort d'où...
C'était vos personnages.
Ouais, non. D'où on sort Alors moi, dans le jeu de rôle, les créatures, on les sort au dé, en fait. Donc, on se creuse pas la tête. On a ce qu'on appelle la table des rencontres. Et ben, du coup, voilà, on est niveau 1. Et à un moment, le MJ a pas trop d'imagination. Alors, il lance un dé, puis il fait oh, un troll. Alors, normalement, on fait ouais. Sauf que comme on est niveau 1, on fait non. Voilà, donc moi je travaille même vraiment au dé aussi, en fait. Ce qui ajoute un côté un petit peu aléatoire à ce que j'écris, et de temps en temps je prends les décisions au dé.
À quel niveau?
Moi je suis niveau 8 maintenant, donc j'ai plus peur.
Mais ils sont quand même pas comme ça, les personnages de l'elfe. Voilà, tu les pousses.
Moi, je les pousse un peu, mais c'est des observations de joueurs, en fait, vraiment. C'est-à-dire que le joueur s'approprie son personnage et puis il va le jouer à sa façon. Et les gens qui jouent nains, il y en a dans la salle peut-être, les gens qui jouent nains... mais il y en a toujours de toute façon. Les gens qui jouent nains, déjà avant que je fasse le donjon de Nahulbeuk, ils étaient pénibles. Maintenant, je leur ai en plus donné une excuse. Parce que quand ils font n'importe quoi, c'est « Ah ouais, mais je suis nain !» Voilà. Donc, d'ailleurs, je m'excuse auprès des MJ.
Je note que tu ne t'excuses pas auprès des nains.
Non.
Voilà.
Jeanne, le vampire, le vampire Navarre n'est pas particulièrement drôle, donc, sauf quand il se plante. Enfin, il est traité avec une ironie, une volonté de réfléchir sur les codes préexistants. Tu as voulu le mettre à contre-emploi ou... Parce qu'il y a,
moi, j'imagine, si tu veux, qu'on ne vit pas 500 ans sans apprendre des trucs et surtout un certain détachement par rapport aux choses. Ou alors on crève, à un moment donné. Si on prend les choses trop au sérieux, on crève. Hein, parce que tout est horrible dans le monde, y compris lui, et il le sait. Mon vampire Navarre, c'est un sale gosse qui a compris qu'il irait toujours dans le sens de son plaisir, quoi qu'il arrive, qui a compris que parfois d'autres gens paieraient l'addition et qui s'accommode avec ça tant bien que mal. Et la seule défense qu'il a trouvée contre cette bêtise qu'on appelle l'ermor, on va dire, c'est le détachement. C'est, il est non mort, tu sais. Donc, bon. Donc, la seule chose qu'il a trouvée, c'est effectivement de prendre ça avec cynisme et ironie. Voilà. Et je crois que c'est en fait la seule attitude raisonnable qu'on peut avoir par rapport au monde, même quand on vit que 10% de 500 ans. Ce qui est mon cas là, cette année, tu vois.
10% déjà ?
Eh oui !
Ça le fait.
Il me reste les 90 autres, mais je sens que je ne vais pas y arriver, là. J'ai pas assez de détachement.
L'humour fait partie en même temps des codes de la bitlite. On l'oublie beaucoup à cause de l'ombre de Twilight, mais moi, quand je regarde Buffy ou quand je regarde même des auteurs français d'aujourd'hui, Alice Carling ou Maëve Regan, il y a beaucoup d'humour dans ce genre-là. Quasiment automatiquement.
D'office, les premiers romans que j'ai lus de cet ordre. Dont
sinon,
je...
c'est trop sentimental.
Alors, j'ai pas vu Buffy jamais, sauf l'épisode de comédie musicale qui m'avait été imposé par une éditrice il y a fort longtemps. Mais je ne lui en veux pas du tout, je me suis beaucoup marrée. Ouais. Non, mais j'ai tout compris. C'était bon, là, je suis bien. Mais ça m'a jamais attirée parce que le côté. Par contre, ce qui coinçait avec Buffy, c'était le côté collège, vie de collège. Et je ne sais pas pourquoi, le prof que je suis n'avait pas du tout envie de se retrouver au boulot avec des vampires. On a déjà des emmerdements avec ce qu'on a, on ne va pas rajouter les vampires. J'ai jamais compris non plus pourquoi ça marche tant, ces histoires d'école.
Ah, moi, c'est un de mes genres favoris, on pourra en reparler
voilà,
si tu veux.
Voilà. Mais à part l'identification des lecteurs, que je peux comprendre, personnellement, je ne marche pas.
Tu vois, moi,
je peux pas. Sauf dans Harry Potter, bizarrement. Là, qui est drôle aussi, Harry Potter.
Ouais.
Ah, si, il y a plein de détails drôles. Hein. La choco-grenouille, moi, ça me fera rire jusqu'à la fin des temps. Mais bon, j'ai un humour culinaire. Mais. Alors attends, qu'est-ce que j'ai oublié la question ? Tiens, c'est le matin, là.
L'humour dans la bitlite, l'humour automatique. Pourquoi c'est automatique ?
Ben, je suppose que la plupart du temps, dans la bitlite, c'est des filles. Et les filles, quand elles prennent des positions de pouvoir, elles sont obligées de se le faire pardonner. Et l'humour est une des armes des filles pour faire pardonner la prise de pouvoir. Et ça, tu le remarqueras dans tous les endroits. On ne peut pas être un gros bourrin de barbare...
Si.
Mais tu manques de sein pour être une fille gros bourrine de barbare. Et la seule écrivain que je connaisse qui fait des gros bourrins de barbares sans humour, c'est Justine Yogret.
Non, mais Anne Rice, voilà. Par exemple, il n'y a pas d'humour du tout.
Lesta, il en a beaucoup, quand même. Elle a des personnages qui ont de l'humour. Oui. Ah, Louis, il est à baffer tellement il queen tout le temps, mais, mais certains ont beaucoup, beaucoup d'humour. Même dans la Reine des Damnées, une des deux rousses, qui pourtant a une histoire à pleurer des larmes de sang pendant tout le temps où on la lit, elle a beaucoup de distance et beaucoup d'humour. C'est, les personnages d'Anne Rice, ils ont leur personnalité, et dans Anne Rice, ces personnages peuvent avoir de l'humour. Armand, il a un humour pervers que j'adore personnellement. Hein, et quelque part, c'est pas Lesta, le modèle de Navarre, enfin, si j'ai des ancêtres, c'est Armand.
D'accord.
Tu vois, donc, mais je pense qu'effectivement, il y a un mécanisme de ce genre, un mécanisme peut-être inconsciemment sexiste, finalement, qui pousse les auteurs de bitlit à se cacher un peu derrière l'humour pour faire passer ce qu'elles ont à dire. Parce que les livres, les romans de bitlit, sauf quand c'est Twilight, pardon, hein, pardon pour la famille, s'il y en a dans la salle, sauf Twilight, ils ont des choses à dire. Des choses à revendiquer. Voilà.
C'était mon avis, je le partageais. Sur la chasteté.
Sur la chasteté, c'est un avis, mais je ne le partage pas du tout. Voilà.
Et toi, Sylvie, les références. Donc, poussé à l'extrême. Tu en as déjà un petit peu parlé. C'est les détectives.
Alors il y a d'une part effectivement une référence aux détectives de la littérature des années 40-50, mais il y a aussi, on est allé pêcher dans le fond mythologique, parce que finalement l'humour, oui, alors il vient déjà des situations vécues par le détective, mais l'humour vient aussi de toute la galerie de personnages qui est autour. Quand on imagine Lasserre qui va, donc lors d'une de ses enquêtes dans le tome 2, il est censé aller voir le Minotaure, et quand il déboule chez le Minotaure, donc dans les grottes, dans le labyrinthe, et à un moment donné il franchit une espèce de porte cachée, et là il tombe dans un petit intérieur tout propre avec des napperons, des jolis fauteuils, Madame Minotaure qui sort de la cuisine avec son tablier en se demandant quel est ce visiteur, et on s'attend à ce qu'elle lui offre le thé, les petits gâteaux. Du coup ça provoque une espèce de surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc le djinn aussi âmre est très très facétieux, très amusant, et donc on utilise ces personnages de la mythologie.
Et les attentes qu'on a vis-à-vis.
Voilà, de nous, ouais. et on les transforme, et du coup, ça provoque une surprise et ça provoque un peu le rire. Et puis, notre détective, lui, ben, on le met dans des situations où finalement, alors qu'on s'attendait à voir un détective très réfléchi, très. Lui, souvent, il fait des gaffes. La plupart du temps, on a l'impression qu'il se tire de ses enquêtes parce qu'il a une chance incroyable, parce qu'il n'est pas spécialement doué.
Ou de bons acolytes.
Ou de bons acolytes, parce qu'effectivement, il est très, très bien aidé, très bien entouré. Et du coup, c'est ça aussi qui produit le décalage et qui produit l'humour.
Est-ce que vous, ça vous procure un plaisir particulier d'écrire, d'aller de ce côté-là de votre écriture, qui n'est pas forcément pour Jean-Claude et pour Jeanne le seul genre pratiqué, ou est-ce que ça vous demande au contraire un travail particulier ?
J'ai pas compris. Non. Non, bien sûr que c'est une espèce de jubilation totale, et je peux vous garantir que quand on trouve un jeu de mots particulièrement terrifiant, dont on se dit je vais le mettre dans le bouquin, il m'est arrivé de me réveiller la nuit avec un jeu de mots qui venait d'arriver, là, de me réveiller, et de me dire tu te lèves, tu vas l'écrire, parce que celui-là, il serait un crime pour l'humanité que tu l'oublies. Donc je vais taper la scène. Et je peux vous dire, ça m'est arrivé ce matin à 4 heures du matin, j'en ai un qui est tellement pathétique, il va être dans le tome 2, que j'ose même pas vous le raconter. Mais vraiment, je me marre.
Moi, je les mets en statut sur Facebook au cas où, parce que c'est ce que j'ai de plus facilement sur mon portable. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais mis « Ce n'est pas poli de dire aux gens qu'ils ne sont pas comestibles ». Ça m'avait tellement plu, au cas où je l'oublie.
Mais c'est tout à fait ça, vraiment. On a cette espèce de... Bon, on écrit dans un certain contexte. Et puis, il y a une chose qu'on fait. Bon, dans le cas particulier du troll, bon, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui est particulièrement odieux, qui a tendance à se la péter, qui est désagréable, qui est quelqu'un qui se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est,
qui fait de la politique,
en général, ne comprend rien. D'accord ? C'est moi. Donc, j'ai toujours la possibilité de m'en moquer à tout moment. Et alors, l'avantage aussi, c'est que je comprends de la façon dont je me moque avec un temps de retard. Donc, je me raconte une connerie sur la page et je la relis. Et là, je la trouve drôle et je me dis, tiens, ça va les faire marrer. Et donc, j'ai cette espèce de dualité du personnage où je peux, en tant que troll, relire ma page d'écrivain et dire, c'est bien. Voilà. Et à ce moment-là, c'est jubilatoire.
Il n'est pas bête du tout, ton troll. Pourquoi il n'a pas compris les... Au contraire. Ouais.
Je te rappelle quand même qu'il dit à un moment donné une phrase qui est une phrase essentielle de management, qui dit « On ne doit pas confier une tâche à quelqu'un de plus intelligent que soi ». C'est d'ailleurs pour ça que je finis par tout faire moi-même.
Exactement.
Oui, alors donc avec Philippe, mon petit camarade, nous on a une dimension supplémentaire humoristique dans l'écriture, puisqu'on écrit à deux, et que la plupart du temps, pour ces bouquins-là, on utilise nos présences sur les salons, où on se voit pour faire du brainstorming ensemble, pour... cadrer un peu l'histoire, parce que si on partait dans tous les sens sans contrôle l'un et l'autre, on ne sait pas bien où on irait. Donc du coup, on réfléchit à l'histoire, au découpage, et puis ensuite, on se partage le travail pour la première écriture. Toi, tu prends ce chapitre-là, moi, je prends celui-là, puis après, on se l'envoie, l'autre découpe, charcute, rechange, et après, on améliore. Donc ce qui fait qu'on a la dimension supplémentaire de se dire, bon, on a la ligne directrice, mais on va rajouter des petites choses, et on rigole d'avance à se dire, tiens, lui va lire ça et comment il va réagir. Et je me souviens que j'avais dans une des scènes, je crois que c'est dans le tome 1, je devais écrire la partie où Lasserre va à l'Argémios, donc un célèbre nightclub du Caire. Il est à l'Argémios et Seth, donc son ennemi juré, arrive et Seth, normalement c'est un dieu qui est méchant, alors nous on l'a rendu à la fois méchant et très con, donc il est borné, il est ridicule et en général, voilà. Et Seth, normalement, arrive pour faire un esclandre et je me dis, bon, alors il arrive, qu'est-ce que je pourrais mettre? Et là, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je vois des Tahitiennes, des Vahinées et Seth qui dansent le tamouret. Donc je me dis, bah allons-y, hein, ma foi. Et en plus, il est très, très content de lui parce qu'il croit faire son petit effet. Et donc je rédige le passage, je l'envoie à Philippe et là, je reçois 2 heures après un mail avec en majuscule et plein de points d'exclamation, des Vahinées, mais où t'as été pêcher ça? Et en dessous, c'est génial. Et donc, il avait rigolé en se disant, voilà. Et donc, de temps en temps, lui m'envoie des choses et il va aussi pêcher. Donc, on essaie déjà de faire rire le petit copain. Et du coup, c'est un espèce de petit jeu. Et je pense que ça doit se voir dans la construction de ça. Parce que le lecteur sent qu'on s'est amusé à l'écrire.
Vous testez vos...
Ouais, le fait, c'est que déjà, quand toi-même, tu commences à rigoler de tes conneries devant ton écran, là, tu te dis, c'est gagné. Parce que souvent, il arrive effectivement. Enfin, moi, justement, comme je disais, j'écris pas mal au dé, en fait. Et du coup, il y a des fois, je sais pas du tout où je vais. Et quand je commence à rigoler tout seul, je me dis, oui, je vais garder cette scène. Sinon, si je rigole pas du tout, je la coupe. Alors, effectivement, en travaillant comme ça, on perd du temps, mais au final, je suis toujours content. Donc.
Mais donc c'est vraiment écrit comme un jeu de rôle. Enfin, c'est-à-dire il y a un scénario, il y a une base de scénario.
J'écris de la même façon que je masterise une partie. C'est-à-dire que je fais mon aventure qui est prévue. Et puis il y a des moments, je me dis bon allez, là je jette un dé. Qu'est-ce qui se passerait? Parce que j'ai la chance aussi d'avoir un jeu de rôle gratuit qui est écrit avec les mêmes règles que ce que j'écris dans le bouquin, le même univers, les mêmes personnages, etc. Donc si j'ai besoin d'infos, je vais dans mon jeu de rôle. Et quand je rajoute des choses dans le livre, je rajoute dans le jeu de rôle et inversement. Donc si j'ai besoin, par exemple, de faire une rencontre, je peux tirer un dé et choper quelque chose dans la table des rencontres et la dire « Ah, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ben, je vais le mettre quand même. » Voilà. Ou alors tirer des résultats catastrophiques d'échecs critiques ou de choses comme ça qui font que ça va modifier mon scénar qui était prévu pour vite fait pour aller quelque part et qui n'y va pas du tout, en fait. Voilà.
Mais pour la série animée qui doit être tirée du donjon de Donald Buck, rassure-nous, tu t'es un petit peu plus...
Alors non, là, on avait toute une équipe de scénaristes et je pense que si chacun avait commencé à acheter des dés, ça on aurait... Non, c'était pas possible.
Liberté du romancier.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien écrire des romans, c'est que c'est le seul endroit où on n'a vraiment pas de contraintes, quoi. Donc, hormis...
Oui.
Ouais, enfin, on peut faire absolument ce qu'on veut à partir du moment où on arrive à l'écrire. Voilà, parce que le reste des supports, y a toujours quelque chose qui nous bloque à un moment, quoi.
Jeanne, est-ce que donc plaisir particulier pris dans cette ligne d'écriture, ça repose, ça change, ou ça demande plus de travail par rapport à la science-fiction, par rapport à une écriture sérieuse, ou est-ce que tu ne fais pas cette différence?
Ce qu'il y a de sûr, c'est que je me marre plus. Ça, c'est évident. Moins de travail, non.
Non, parce que souvent, les comiques disent, enfin voilà, hors écriture, disent au contraire, on est dans un travail qui est assez pénible, etc. Là, je constate que voilà, l'expression de plaisir revient chez vous.
Cela étant, je souffre rarement en écrivant. Le moment où je souffre, c'est juste avant où il faut me décider à poser mon cul devant mon ordinateur et me mettre à bosser. Mais ça, je partage ça avec le monde entier, y compris les mineurs de fond. Donc. Non, il est génial, mon siège. Attends, je l'ai choisi pour qu'il soit pas une excuse. Voilà. Mais une fois que c'est parti, c'est tout aussi jubilatoire de décrire l'héritière que la vieille anglaise et le continent. Le truc, c'est que je me permets plus de choses dans l'héritière. Parce que les règles que je me suis données, c'est moi qui me les suis données. En science-fiction, il y a quand même un code, quand on ne veut pas faire de l'humour, évidemment. Roland Wagner, par exemple, se contre-tapait des codes de la science-fiction. Il en faisait ce qu'il voulait. Mais il faisait de l'humour. Je crois que voilà, c'est ça. L'humour me permet de tout péter comme je veux. Et ça, j'adore ça. Voilà. Mais je ne me sens pas contrainte quand j'écris La vieille anglaise et le continent. Je suis dans un autre mode d'action. Je vais vers mon propos et ça me procure tout autant de jouissance. Ce n'est pas tout à fait la même, c'est tout.
Et alors, dans la même série, est-ce que vous pensez que ça vous permet de toucher un autre public, un public particulier, un public plus large ou différent? Voilà, est-ce que vous pensez que c'est les... Est-ce que vous avez, dans votre contact avec les lecteurs, c'est les mêmes?
C'est évident que c'est pas du tout les mêmes. Et c'est assez rigolo de les voir biller sur des choses dont je sais qu'ils viennent de la science-fiction. Dans l'héritière, il y en a. Et de ne pas comprendre comment j'ai pu arriver là, parce qu'ils sont dans une autre grille de code. Ça me fait beaucoup rire. Alors, j'explicite pas, ça emmerderait, parce que faire un cours, c'est jamais très drôle, sauf quand on les a tous bloqués en classe et qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas sortir. Mais c'est pour ça qu'il y a des portes et qu'elles sont fermées. Mais j'aime vraiment beaucoup le contact avec les publics différents. Mais de facto, j'ai plusieurs publics. J'ai le public jeunesse, le public de science-fiction adulte, le tout nouveau public que l'héritière m'a ouvert. Et j'aime vraiment bien cette diversité-là. Elle m'enrichit, moi. Je ne sais pas si elle enrichit le lecteur, ça, c'est à lui de voir.
Ou l'éditeur.
Alors, celui de l'héritière, apparemment, oui.
Voilà. C'est ça, le vampire. Ça rapporte, ça plaît. John, les lecteurs, c'est les rôlistes?
Non, pas du non. tout. Il y a beaucoup moins de rôlistes que j'ai de lecteurs, donc ouais. Quelque part, je me sens bien grâce à ça, parce que moi, quand j'ai commencé, je pensais toucher que les rôlistes, mais en fait, j'écris principalement pour moi. Enfin, j'écris des trucs qui me plaisent à moi, donc je me dis, ça va plaire aux gens qui sont comme moi, donc des rôlistes. Mais en fait, non. Bon, c'est très bien. En plus, ça fait découvrir le jeu de rôle, etc. Mais déjà, il ne faut pas dire qu'on ne fait que s'amuser en écrivant, parce que c'est quand même du travail. Hein, parce qu'il y a déjà des gens qui disent « Ouais, mais les gens, ils écrivent, ça leur fait plaisir, ils s'amusent. » Non, c'est quand même du travail. Voilà, quand moi, je mets à peu près entre 7 et 9 mois à écrire un bouquin. Et effectivement, il faut trouver le courage de se mettre à son siège tout le temps. Et puis, de réécrire des trucs. Donc, ce n'est pas que de l'amusement. N'allez pas répéter ça. C'est plus ou moins, on a dit ça à un moment, mais on se fait plaisir, mais pas que quand même. C'est du travail. Non, le truc, quand on fait de la littérature humoristique, moi, je n'ai pas fait que ça, parce que j'ai un roman fantastique, très sombre, qui est le premier que j'avais écrit, d'ailleurs. Mais on se ferme par contre un peu les portes de l'éducation, parce que je sais que moi dans mon cursus, qui n'est pas un cursus éducatif très large, à chaque fois que j'ai mentionné le fait que je lisais un auteur qui avait plus ou moins de l'humour, on m'a dit c'est pourri. Donc, effectivement là on se dit en écrivant ça, on ne sera jamais considéré comme un vrai auteur en fait. Et cela dit, c'est quelque chose que je sais, mais à ceux qui disent ça, je les emmerde. Voilà.
Il y a un public, vas-y.
En même temps, quand on écrit de la science-fiction, de la fantaisie, comment tu dirais fantaisie, toi, pour toi?
Oui, c'est de la fantaisie. Oui.
Des parodies de romans hard-boiled avec des Égyptiens dedans.
Et des vaillants.
Voire des soucoupes volantes. des trolls. Et que des fois, on fait de la jeunesse, ça c'est moi. Si on s'attend à se retrouver à l'académie, il faut arrêter de fumer du hérisson. Hein.
Jean-Claude, tu as l'impression, avec ce roman, de toucher un public différent?
J'en ai même la preuve, puisque hier, je dînais, enfin, disons, je faisais une petite conférence à l'heure du dîner, avec des cadres d'un des sponsors du festival, la Légende de Suez. Et je me suis retrouvé donc face à un public d'une grosse quarantaine de personnes, de mon âge en moyenne, en gros, qui visiblement ne connaissaient pas du tout cette littérature-là, et qui m'ont écouté délirer sur mon troll et raconter ma vie, en quelque sorte, et qui après sont venus faire dédicacer le bouquin, parce qu'on leur avait donné un exemplaire du bouquin à chacun, en me disant, je lis pas cette littérature, mais vous, au moins, ça a l'air drôle. Et donc, je me dis, j'ai peut-être un public, et il y a effectivement un public que je vois apparaître à cause de ce bouquin, qui est le public corporate, je parle sérieusement, le public des gens qui ont travaillé dans une grosse ou une moyenne boîte, des gens qui savent ce que c'est qu'un stagiaire, qui savent ce que c'est qu'une ressource humaine, qui savent ce que c'est qu'un contrôle qualité. Ces gens-là ne lisent pas nécessairement, ne lisent d'ailleurs pas nécessairement, premièrement, et puis ils ne lisent pas nécessairement de la SF, de la fantasy, des trucs comme ça. Mais dans la mesure où on leur explique que le contrôle qualité, c'est le mal, ils sont prêts à accepter le fait que le bouquin vaut la peine. Et si en plus vous leur dites, vous savez, les gens que je mets aux ressources humaines, ce sont les magiciens les plus sombres, et là ils me disent, mais ce type, il a tout compris. Et hier, j'ai un type qui est arrivé qui m'a dit, moi je suis très gêné parce que je suis aux ressources humaines, mais je ne suis pas comme ça, vous savez. Et j'ai dit, mais parfait, c'est très bien, mais il en faut justement pour garder la noblesse à votre travail. Et donc à partir de là, je pense arriver à toucher un public complètement différent.
Est-ce que tu as pensé aux consultants aussi?
Attends, je te rappelle que j'ai écrit quand même une nouvelle qui est utilisée par des gens qui sont des consultants justement internationaux pour expliquer grosso modo tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai, j'ai écrit une nouvelle où le principe de la nouvelle, je l'ai écrite pendant une réunion qui était totalement à l'ouest. Le principe, c'est des dinosaures, mais qui sont dans un monde industrialisé comme nous. Et il y en a un qui a aperçu le machin point blanc brillant dans le ciel. Il dit, il envoie un mail en disant, bon, les mecs, j'ai vu un truc, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et à partir de là, les carnivores s'emparent du truc. Les ressources humaines lui disent, je te rappelle que c'est pas notre boulot, tu es censé te concentrer sur la sortie dans 3 mois du truc. Bon, ça circule. Et les consultants sont apparus en disant, écoutez, on va vous régler le problème, on vous propose une stratégie d'accueil de l'astéroïde, etc. etc. Et du coup, il y a des consultants qui m'ont acheté la nouvelle, mais je parle sérieusement, qui me l'ont acheté très cher pour pouvoir l'utiliser dans des cours de management, pour l'utiliser comme mauvais exemple, en disant, voilà, vous lisez la nouvelle, maintenant on va essayer de savoir qu'est-ce que vous auriez dû faire. Bon, qu'ils aient fait quoi que ce soit ou autre, on prend l'astéroïde dans la gueule, c'est ça à peu près un consultant. Mais la différence, c'est qu'il ne faut pas que ça se voit. Donc j'ai vendu un truc très cher pour leur permettre d'éviter aux dinosaures de vivre le destin qu'ils ont.
Quoi, en même temps, vu ce qu'ils facturent, les consultants, ils peuvent se l'acheter.
Oui, exactement. Alors, la nouvelle s'appelle Mémo pour Action et elle est dans je ne sais plus quel recueil, le recueil sur ma table, je trouverai ça. Elle est très courte, hein, elle fait genre une douzaine de mails. Et alors, c'est un avantage aussi, c'est que je peux la lire à haute voix de temps en temps dans un festival, etc. Ça fait venir plein de gens après, parce qu'ils me disent « Ah ouais, mais vous travaillez dans telle société ?» Et j'ai dit « Non, non, parce que le brontosaure, là, c'est monsieur machin. » J'ai dit « Non, non, j'ai le même à la maison, mais non, 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 parce que vraiment, c'est ça, quoi. » Et alors, à chaque fois, tu leur expliques que les carnivores sont un peu tous pareils, les brontosaures sont un peu tous pareils. « Ah oui, mais moi, monsieur machin, il est vraiment comme ça. » Ben oui, j'en suis désolé pour vous, et mes condoléances, mais vous savez, j'ai le même. Hein, je peux les présenter, et avec un peu de chance, ils vont se reproduire. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Et je précise un truc aussi, c'est loin d'être le premier bouquin d'humour que j'ai écrit. Il est écrit il y a pratiquement 20 ans de ça, un livre qui à l'époque on avait fait marrer les gens, qui s'appelait Rollover Amundsen, qui était à peu près le même genre d'histoire que mon troll, mais dans un milieu de rock'n'roll post-apocalyptique avec zombies et pingouins. Les pingouins jouent un rôle extrêmement important, et en fait cette histoire, c'est une espèce de nouvelle qui, à un moment donné, quand j'ai abandonné mon héros rock'n'roll sur les glaces du pôle sud entouré de pingouins et de zombies, qui m'a dit « Tu ne vas pas me laisser là ». Certes, mais je n'avais pas la moindre idée de le faire aller. Alors, j'ai dû faire comme toi. Moi, je n'étais pas l'aider. J'ai dû prendre ma guitare, j'ai dû balancer un accord à fond. Et quand mes oreilles se sont débouchées, je me suis dit « Tiens, on va faire quelque chose ». Et c'est devenu un roman et je suis en train d'écrire la suite. Mais c'était un truc totalement starbé. Et croyez-moi, ça, c'est un plaisir. En plus, c'était basé sur des scènes réelles. Des choses, les gens me disent, ah là, t'as quand même une imagination exemplaire, mais ça s'était vraiment passé comme ça. Je veux dire, j'ai eu une scène en studio où on avait décidé de nous mettre des capteurs sur la poitrine pour avoir le son de notre cœur pour accompagner le rythme, et comme on avait le cœur qui battait trop lentement, on nous a fait courir sur place. Mais c'est pas une blague. Et le problème, c'est que le copain d'à côté, il est tombé dans les pompes en plein enregistrement. D'accord ? Avec tous les mecs qui se demandaient déjà qui étaient emmerdés parce qu'il fallait arrêter l'enregistrement, ça coûtait cher un enregistrement en studio, et en se demandant qu'est-ce qu'il devait faire, quoi. Avec le truc, il faisait tout, 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 tout. C'était vachement emmerdant. Bon. Ben, ce genre de gars, vous le racontez dans un bouquin, les gens vous disent putain, t'as une imagination. Ben non, j'avais encore le copain à côté à qui on disait merde, déconne pas. Tout, 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 tout. Voilà.
Bon, bah, bonne nouvelle, donc ce futur roman rock humour et imaginaire ou. Oui, zombie.
C'est post-apocalyptique et avec des zombies. Bon,
d'accord.
Imaginaire, je pense, d'une certaine façon. Mais les zombies sont pas.
Je sais pas si tu les reprenais, ceux-là. Tu les avais abandonnés au pôle sud. Je pensais qu'ils allaient y rester. C'était devenu les marcheurs blancs, tu vois. Et voilà, c'était réglé derrière le mur. C'est ça. Un peu quand même. Et toi, Sylvie, est-ce que le public de la serre est celui que tu touchais avec tes anthologies ou en tant que traductrice, tu vois une... Je ne sais pas moi si les gens qui aiment la fantaisie humoristique sont les mêmes que ceux qui lisent de la fantaisie épique, sérieuse.
Moi j'ai l'impression en dédicace de revoir pas mal de monde qui sont les mêmes personnes, curieusement. Donc ils ont l'air de s'intéresser pas mal aux divers domaines que je touche. Mais c'est vrai aussi que si je regarde au niveau de la traduction, y a un certain nombre de choses que j'ai traduites. Si je prends Yos, notamment avec le recueil Interférence, là on est encore dans l'humour hein, avec cette histoire il était un grand pays, un petit pays, deux voisins fort différents. Dans l'un, il y avait un grand dirigeant, il y avait plein de chaînes de télé et on appelait ça la liberté de la presse. Et dans le petit pays, il y avait un dictateur affable, entre parenthèses, aux riches éclairés de son peuple, fermez la parenthèse. Il n'y avait que trois chaînes de télé et en plus, le grand dictateur, pour le bien de son peuple, contrôlait tout. Et on appelait ça la liberté de la presse parce que le grand dictateur affable, qui guide son peuple vers la victoire, en avait décidé ainsi. Et voilà. Et donc tout le reste est à l'avenant et donc les nouvelles sont truculentes. Alors il y a aussi dans ce que j'ai pu écrire ou dans les traductions que j'ai pu faire des choses qui sont complètement différentes et où il n'y a pas d'humour, mais curieusement je pense que souvent en dédicace je revois un petit peu les mêmes personnes, donc
j'ai peut-être plus toi, ta singularité ou tes choix.
Oui, j'ai un petit peu l'impression. Ouais. Alors, effectivement, certaines personnes m'ont dit, j'ai lu, c'est un peu moins mon goût, mais j'ai bien aimé quand même. Donc, j'ai pas vraiment constaté de scission au niveau des gens qui me lisent ou qui me suivent.
Je viens de penser à un auteur qui réussit l'exploit d'écrire de la fantaisie drôle. Et qui réunit à la fois les amateurs de fantasy pure et les amateurs de hard science. Et là, s'il nous a quittés très récemment, c'est Terry Pratchett.
Mais oui, mais c'était là. Voilà.
Donc, pour moi, je suis rentrée dans Terry Pratchett parce que j'aimais l'ASF et que je vois de l'ASF dans Terry Pratchett. Je la sens tout le temps. Et c'est peut-être lui qui m'a fait lire Tolkien, en fait. Parce qu'après, il fallait quand même... D'accord, je vois la référence, mais je la connais pas. C'est ballot. Donc je suis allée lire Tolkien après. C'est ça qui est rigolo.
Mais justement, dans Tolkien, il faut jamais oublier que derrière la couche d'humour qui est toujours omniprésente, il y a quelque chose d'une certaine gravité. Derrière Pratchett. Derrière qui ? Derrière Pratchett, oui, pardon. Derrière Pratchett, excusez-moi, c'est le matin. Ça doit être le troll qui parlait. Et je pense en particulier à une phrase de Pratchett que j'aime beaucoup, où il parle dans Ankh Morpork du seigneur Vétérini, et il dit « Le seigneur Vétérini appliquait la règle, un homme, une voix. C'était lui l'homme, il avait la voix. » Et ça fait rigoler, c'est certain. Mais vous regardez Sarkozy, vous vous posez de vraies questions. Vous vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris, là, ici, qu'il est en train de faire rigoureusement ce que Pratchett décrit ? Sauf que chez Pratchett, c'est de l'humour. Alors que là, malheureusement, c'est la réalité. Et c'est beaucoup moins drôle.
Et puis, le seigneur Vétérini est un homme qui va vers le bien des autres. Ce qui, on peut se poser la question pour celui dont tu parlais tout à l'heure, qui n'est pas drôle du tout, dont on ne voit pas prononcer le nom.
Oui, je voulais en venir. Je voulais effectivement qu'on finisse... Non, par évoquer Pratchett.
Ah non, on a dit que c'était drôle aujourd'hui.
Hein. Dont la mort cette année a mis le projecteur... clairement, j'étais, enfin voilà, très heureuse de voir les réactions que ça a provoqué sur justement ce secteur en général mal connu, voire méconnu de du genre. Et quand tu disais, on reste quand on est un auteur humoristique toujours un peu en seconde zone de la seconde zone. Bon, là, j'espère que.
Ah
ça
oui, mais lui, c'était quand même la première classe de la seconde zone. Hein.
Mais il faut pas croire que parce qu'on écrit des choses humoristiques, du coup, c'est juste humoristique et que c'est creux. La plupart du temps, derrière l'humour, il y a une deuxième couche avec souvent des choses très intéressantes.
Bah, l'observation.
Avec de l'observation.
Donc,
avec
Jean-Claude.
Pour parler de la serre, notamment donc, ce pauvre détective qui se retrouve dans les mains des dieux, finalement, une espèce de jouet des dieux, il n'a pas le choix parce que les dieux sont immortels, sont tout-puissants. Donc pour eux, les êtres humains, c'est quoi? C'est des espèces de fourmis avec finalement des durées de vie très courtes. Et les dieux n'arrivent pas à concevoir ce que c'est qu'un humain. Donc, ben, voilà, pour eux, écraser un humain, c'est comme on écraserait une fourmi. Et du coup, derrière toutes les aventures de la serre et ses pérégrinations et ses contacts avec les dieux, il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le pouvoir, qu'est-ce que c'est que le choix. Parce que la serre, finalement, il a le choix de ne pas obéir. Bon, il va mourir, mais il a le choix de ne pas obéir. Et du coup, c'est très intéressant d'utiliser l'humour pour faire passer des choses comme ça.
Ben oui, d'autant plus que tu parles, quand tu utilises ce genre d'humour basé sur une observation, il y a toujours des gens à qui tu parles, puisque justement, notamment l'humour d'entreprise, que j'aime beaucoup moi aussi, puisque oui, j'ai fait une petite vidéo débile dans mon site qui s'appelle Le Conseil Corporate, où, dans lequel le conseil d'Aileron en fait, discute des vertus marketing de l'anneau. Ça se finit mal, évidemment. Et moi, j'aime beaucoup les consultants, donc il y en a un dedans. Mais voilà, donc alors effectivement, il y a plein de gens qui trouvent cette vidéo pas drôle du tout, parce que justement, ils n'ont pas mis les pieds dans ce genre d'entreprise. Mais par contre, les autres, tu leur parles grave, quoi. Alors, tu fais pas vraiment d'effort en plus. Tu dis juste, bon, bah, j'ai observé ça, et qu'est-ce qui se passerait avec ça dans tel contexte? Et là, ça vient tout seul, en fait, et tu parles vraiment à des gens qui ont observé la même chose que toi.
En tout cas, j'ai le sentiment, dans tout ce que j'ai lu de drôle en fantasy, qu'il y a plus facilement un propos général, sociologique, politique, dans la fantasy rigolote, on va dire, que dans la fantasy sérieuse, qui aurait tendance à plus se centrer sur l'évolution du personnage, sa complexité, sa quête, son besoin, etc. Alors, je parodie un peu, sans doute, puisque... Ça fait un certain temps que je n'ai pas lu de... Je me suis arrêtée à Gemmell, hein, sur les parutions des dernières années, en vrai. Mais j'ai vraiment le sentiment que lorsqu'on fait de l'humour, on va aller sur le général, le collectif, plus facilement que sur l'émotion. Et c'est moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est là aussi où je crois que mes plusieurs casquettes se rejoignent, puisque c'est également le propos de la science-fiction. C'est quelque chose qui parle plus facilement de l'humanité que de l'individu.
Eh bien, sur cette forte parole, si tu as quelque chose à ajouter, Sylvie. Non, sur l'humain. Merci beaucoup d'avoir
mis
en valeur l'humanisme de l'auteur de fantasy ou d'imaginaire humoristique. Et merci à tous les quatre pour cette table ronde matinale et néanmoins chaleureuse.
Merci à vous d'être restés jusqu'au bout.